Il y a des dimanches comme ça. Que vais-je dire ce matin qui n'a pas déjà été dit dans la première partie de ce culte, et même bien dit, ou chanté? Mais comme ce culte a démarré avec ce chant « Souffle, Esprit de Dieu », il faut croire que le Seigneur a conduit les choses de cette manière. Alors je ne vais pas me rasseoir tout de suite quand même. Je commence en vous posant deux questions. La première, quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné? Et deuxième question, peut-être la plus importante encore, est-ce que vous l'avez suivi? Parce que ce n'est pas tout d'avoir de bons conseils, encore faut-il les suivre. Et parfois c'est seulement après coup qu'on se rend compte que le conseil donné était si pertinent. Et alors on se dit « j'ai bien fait de l'avoir suivi ». Ou alors on se dit « si j'avais su, j'aurais écouté, j'aurais suivi ce conseil ». La prédication d'aujourd'hui s'inscrit dans une série que j'ai commencée le 5 mai, avec la première prédication, aujourd'hui c'est la deuxième, sur le livre des Proverbes, en particulier les 9 premiers chapitres du livre. Nous avions creusé la dernière fois les premiers versets du livre que j'affiche ici. Ah, il faut se mettre peut-être sur le diapo. Voilà, merci beaucoup. J'affiche ici ces 7 premiers versets du livre qui avaient fait l'objet de l'étude le 10 mai. Les versets 2 à 6 en bleu ici qui permettent de connaître le but du livre, à savoir l'enseignement de l'art de vivre selon Dieu dans un monde où le mal est présent. Et puis, le texte nous disait par où il faut commencer avec le verset 7. Ça ne marche pas là, ce matin. Ça ne marche pas. Hop. Merci. Avec le verset 7 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et j'avais défini ce qu'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est le fait d'être animé d'un profond respect à l'égard de Dieu, de reconnaître sa seigneurie, sa souveraineté, son autorité. Ça se traduit par la soumission à sa volonté, l'obéissance à ses commandements. Et par voie de conséquence, cela débouche sur cette foi en Dieu, cet amour pour Dieu, cette écoute, cette attention portée à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible. Mais dans les faits, est-ce que nous écoutons toujours ce que Dieu nous dit dans la Bible? Aujourd'hui, nous allons parcourir le texte biblique qui s'étend du verset suivant, chapitre 1, verset 8, jusqu'à la fin du chapitre 3. C'est une section assez grande, avec des passages où nous allons nous arrêter un peu plus, et puis d'autres que je ne ferai parfois qu'évoquer ou simplement lire ou survoler, pour montrer la pensée de l'auteur dans ce début du livre des Proverbes. Et cette section commence avec cette double invitation. « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Invitation à écouter l'instruction, invitation à ne pas rejeter l'enseignement. Et la raison de cette écoute, elle est donnée tout de suite après dans le verset 9. « Car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. » Le ruban, symbole de victoire, collier, symbole de prospérité. Deux images, en fait, pour dire simplement et de manière illustrée, imagée, la pertinence d'écouter la sagesse qui s'exprime dans la Bible et en particulier ici dans le livre des Proverbes. Parce que cet appel à écouter la sagesse, c'est finalement l'appel central dans tout le livre et dans ces chapitres 1 à 9 que nous parcourons. La Bible, et en particulier les Proverbes, c'est comme cette voix qui nous donne des conseils. Et nous avons raison de croire que ce sont d'excellents conseils, de pertinents conseils, parce que c'est Dieu lui-même qui nous les donne par le moyen de sa parole, la Bible. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous sommes sensibles à la voix qui s'exprime ici dans la Bible? Cette question, elle est pertinente car il est facile et tentant d'écouter une autre voix ou d'autres voies, celles décrites dans la suite du texte, les versets 10 à 14. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Hé, t'auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Que c'est facile de se laisser prendre. Pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est que cette voie a quelque chose d'attirant, de séduisant. On a l'impression d'un gain facile, là, tout de suite, verset 13, hein, « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. » Mais le gain facile, c'est souvent du mensonge. C'est souvent une illusion. C'est souvent un leurre. Une seconde raison, c'est que même si parfois on sent qu'il y a un danger, on finit par céder à cause de la pression exercée, d'un appel insistant, de la pression sociale, comme au verset 11, « Allez, viens avec nous !» On ne veut pas trop détonner du reste du groupe et on finit par se mêler et à se laisser séduire par les ruses, par les pièges. Et il y a bon nombre de pièges modernes qui nous assaillent aussi aujourd'hui. Être bien vu des autres dans cette quête effrénée de validation. Les réseaux sociaux qui peuvent apporter de bonnes choses, mais où il ne faut pas être dupe aussi quant au danger qu'ils représentent. Des relations qu'on pense parfois authentiques, sincères, avec des personnes qui se présentent comme de bons conseillers à premier regard, mais qui se révèlent en fait être des relations toxiques. Et j'en passe. La sagesse qui s'exprime ici met en garde contre le danger des mauvaises fréquentations. Et non seulement elle met en garde, mais elle dit « n'accepte pas » au verset 10. Et elle va plus loin. Elle dit la fin tragique de ceux et celles qui se laissent prendre à leur piège. Dans les versets 15 à 19 que je lis maintenant, « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Mais eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur vie qu'ils tendent des pièges. » Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite et qui prend la vie de celui qui la possède. Pour le dire autrement, tôt ou tard, ils vont prendre un mur en pleine figure et à toute allure. D'où cette vigilance, comme au verset 17, de l'oiseau qui sait repérer le piège qu'on lui tend. Il n'est pas dupe. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Eh oui, l'oiseau ne se laisse pas prendre si facilement. Ne tombons pas dans ces pièges. Chacun est concerné ici par cette mise en garde. Écoute donc une autre voix que celle-là. Et cette autre voix, c'est la voix de la sagesse, dont il est question dans la suite du texte. Parce que dans tout ce lot de stimuli autour de nous, la sagesse nous appelle. Verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, à l'entrée des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. Elle est présente partout. Dans les rues, là où les gens circulent. Dans les places, là où les gens vont acheter et vendre. À l'entrée des lieux bruyants où tout le monde peut voir et entendre. À l'entrée des portes de la ville, où les responsables à l'époque du peuple prenaient des décisions. La sagesse, en fait, s'adresse à tous. Et elle vint nous trouver là où nous sommes. Et elle s'adresse à toi aussi ce matin. Elle t'invite à l'écouter. Et voilà ce qu'elle dit dans les versets suivants, 22 et 23. « Jusque à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité ? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance ? Revenez pour écouter mes réprimandes. Voici que je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » La sagesse nous invite à revenir de notre mauvaise voie, c'est-à-dire à changer notre manière de vivre pour aligner notre conduite sur ce que Dieu nous dit dans la Bible, et notamment par ces textes-là et la sagesse qui s'exprime. L'Esprit de Dieu qui a inspiré les paroles contenues dans la Bible est ce même Esprit que Dieu, verset 23, répandra sur nous. Et c'est au futur, parce que cela aura lieu aussi avec et après la venue de Jésus-Christ. Car c'est par l'Esprit de Dieu que l'on peut acquérir la sagesse et connaître les paroles de Dieu. La sagesse lance cet avertissement à ceux qui refusent de l'écouter dans les versets suivants. Je ne vais pas les lire tous, simplement de dire que Dieu ne les force pas. Par contre, ils en paieront au moment venu les conséquences, comme on le voit dans les versets 29 à 31. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Ils rejettent la crainte de l'Éternel, qui est pourtant la chose la plus importante, comme on l'a vu avec le premier chapitre du livre, je ne l'ai pas remis là, mais chapitre 1, verset 7, que j'ai lu en introduction et que je rappelle encore maintenant. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés, eux, ils méprisent la sagesse, ils méprisent l'instruction, ils s'en moquent. » Pour le dire autrement, ceux et celles qui refusent d'écouter récolteront ce qu'ils auront semé. Vous voulez suivre vos propres conseils ? Soit, mais c'est à vos risques et dépens, dit la sagesse. Et le livre des Proverbes nous met finalement devant un choix, avec deux, pas trois, pas quatre, mais deux voies possibles, comme on le voit dans les deux derniers versets de ce chapitre 1. Car l'égarement des stupides les tue, et l'insouciance, et l'insouciance des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. » Avec ce premier chapitre ici, cette sagesse personnifiée nous donne une image vivante de la parole de Dieu. Lorsqu'elle s'exprime, c'est comme si on entendait la voix de Dieu, Dieu qui s'adresse à nous. La voix de la sagesse nous aide ici à comprendre comment Dieu, par sa parole, par la Bible, nous interpelle, nous met en garde, nous rappelle combien il condamne le péché, c'est-à-dire quand on fait des choix qui vont à l'encontre de sa volonté, et comment il nous rappelle que nous aurons à rendre un jour des comptes pour nos actes. La sagesse nous dit tout cela, non pas pour nous faire peur, mais bien plutôt pour que nous fassions les bons choix dans notre vie, maintenant, dès aujourd'hui. Parce que, in fine, le fait d'écouter et de suivre la parole de Dieu, c'est une question de mort ou de vie. Une question de mort, c'est-à-dire d'une éternité que nous passerons loin de la présence de Dieu, ou alors une question de vie, une question de vie avec Dieu, de salut éternel, dans une relation épanouie avec Dieu dont nous parlerons tout à l'heure avec le chapitre 3. Ce chapitre 1 donc nous invite à écouter la bonne voix, la voix de la sagesse qui s'exprime ici. Et le chapitre 2 nous montre ce que l'on gagne à écouter, à suivre la voix de la sagesse. Écoutons la sagesse pour être en sécurité auprès de Dieu. Les quatre premiers versets du chapitre 2 nous disent, comme dans un jeu de répétition, combien il est important d'écouter, de recevoir, de retenir les paroles de Dieu. Mon Fils, si tu reçois mes paroles, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, ça fait écho à ce chant ta parole qu'on a chanté tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons des paroles de sagesse que Dieu nous adresse dans la Bible et en particulier dans ce livre des Proverbes? Est-ce que je les retiens? Est-ce que je les garde précieusement dans mon cœur? Est-ce qu'elles sont plus précieuses que l'argent et les trésors que le monde propose? Si nous recherchons la sagesse, cela va se manifester de deux manières. Si nous la trouvons, si nous mettons toute notre ardeur à. Déjà, ça va se manifester par le fait de connaître Dieu dans une relation personnelle avec lui. Je lis le verset 5. « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Comprenons ici la connaissance de Dieu. Ce n'est pas tant quelque chose d'intellectuel, mais c'est le résultat d'une relation personnelle, intime, avec lui, dans l'écoute de ce qu'il nous dit, dans la prière, dans le recueillement, dans la volonté de le connaître toujours davantage. Et la sagesse se manifestera aussi, deuxièmement, dans nos relations les uns avec les autres, comme on le voit dans le verset 9 jusqu'au verset 11. « Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. » Justice, équité, droiture, qui sont des concepts qui expriment la manière dont la personne sage se comporte avec les gens qui sont autour d'elle. Expérimenter la sagesse. Cela s'exprime dans notre relation avec Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, et cela nous permet d'éviter le piège que constituent deux types de personnes qui incarnent la folie. La première de ces mauvaises voies, ce sont les mauvaises influences, dans les versets 12 à 15, je ne fais que l'évoquer. Et puis la seconde voie qui entraîne à la folie, c'est se laisser séduire par la femme courtisane, dans les versets 16 à 19. Expérimenter la sagesse nous évitera de nous laisser prendre au piège de cette femme séductrice dont il est dit au verset 17 qu'elle abandonne l'ami de sa jeunesse, c'est-à-dire son mari, et qu'elle oublie l'alliance avec son Dieu. Et elle en fait tomber d'autres avec elle dans sa propre chute. Si nous expérimentons la sagesse qui s'exprime dans ce livre des Proverbes, alors nous trouverons la sécurité auprès de Dieu, chapitre 2, versets 20 à 22. Tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants, eux, seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. On retrouve encore ici les deux voies possibles, la voie des personnes qui marchent avec Dieu, la voix de celle qui se moque de Dieu, qui se moque de ses paroles. La voix de la folie conduite à la mort, j'entends encore une fois le fait d'être séparé éternellement d'avec Dieu. Par contre, la voix de la sagesse est présentée comme étant sûre et conduite dans un lieu de sécurité. Oui, écoutez la voix de la sagesse, c'est trouver la sécurité auprès de Dieu. Alors, écoutons la bonne voix, V-O-I-X, pour suivre la bonne voie, V-O-I-E, dans une relation épanouie avec Dieu. Et pour cela, le début du chapitre 3 s'ouvre avec deux clés qui nous sont données pour vivre et expérimenter cela, cette relation épanouie avec Dieu, dans cette bonne voie que nous sommes invités à suivre. La première de ces clés, c'est de nous attacher à l'enseignement de Dieu. Chapitre 3, versets 1 à 4. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que l'amour et la fidélité ne t'abandonnent pas, Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables, la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Parce que oui, qu'il est facile d'oublier ce que Dieu nous dit. On peut oublier par distraction, parce que le monde nous bombarde d'informations en tout genre. On peut oublier par négligence, parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter sur ce que Dieu nous dit dans la Bible. On lit, on écoute, on entend, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. On peut parfois aussi oublier par révolte, quand on rejette délibérément ce qu'on sait être vrai. Et combien de fois le peuple de Dieu dans la Bible a oublié Dieu, a oublié ses paroles, et cela l'a conduit à se tourner et adorer d'autres divinités, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Peut-être qu'il nous arrive à nous aussi d'oublier les paroles, d'oublier les promesses de Dieu quand nous sommes face au doute, quand nous sommes face au danger, face à l'épreuve. Et la sagesse nous invite ici à garder, chapitre 3, verset 1, « Que ton cœur garde mes commandements. » Garder, c'est protéger, c'est s'approprier, c'est mettre en pratique. Ça fait penser à ce texte, je ne l'ai pas affiché, du psaume 119, verset 11. « Je serre ta promesse ou je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je la serre, je la garde. Cela passe au plus haut point par, bien sûr, le fait de mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Mais pour cela, on oublie souvent des choses qui sont, je pense, importantes et qu'il est lieu maintenant de mentionner. Mais ça passe aussi par le fait de méditer la parole de Dieu. J'entends par là le fait de la lire, de la relire, de la dire avec nos propres mots, de s'approprier ce que Dieu nous dit, de la prier, de prier à partir de ce que Dieu nous dit dans la Bible. Cela passe par la méditation, cela passe aussi par la mémorisation. On le pratique peut-être moins, mais ô combien la mémorisation de versets de la Bible nous aide aussi à nous nourrir de ce que Dieu nous dit dans la parole. Et peut-être bien que les écrire sur la table de ton cœur, c'est aussi d'une certaine manière mémoriser, ancrer, retenir. Remarquons le nombre important de chants qui reprennent des versets de la Bible. Pour qu'on les apprenne sous forme de chants, pour qu'on les retienne, parce que parfois c'est plus facile de retenir quand c'est chanté. Ça nous aide à nous approprier ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et pourquoi on n'apprendrait pas des versets par cœur? Peut-être que vous le faites déjà, et si c'est le cas, continuez. Si vous ne le faites pas déjà, essayez. Si vous ne vous souvenez pas de l'enseignement de dimanche dernier, prenez des notes. Relisez-les dans la semaine. Réécoutez sur notre site internet la prédication pour raviver la mémoire, le souvenir, pour retenir, pour intérioriser. Peut-être que vous trouvez que la parole de Dieu manque d'impact dans votre vie. Je l'entends, je la lis, mais je ne vois pas vraiment d'impact. Peut-être alors que vous manquez, j'insiste sur le peut-être, peut-être alors manquez-vous de temps pour la parole de Dieu, du temps pour la méditation, du temps pour la mémorisation, du temps pour l'appropriation. Quel verset, au singulier ou au pluriel, vous parle particulièrement ce matin? Notez-le, relisez-le ce soir, demain matin, repensez-y, faites-y écho dans la semaine. Et je suis sûr que dimanche prochain, vous vous souviendrez des grandes lignes, au moins, de ce qui aura été dit ce matin. Et ce que je dis là, ça vaut aussi pour ce que nous avons vécu dans la première partie du culte, dans les lectures, dans les chants que nous avons entonnés. un chant qui vous parle particulièrement ce matin parce que peut-être il vient vous trouver dans une situation où il vous parle particulièrement, eh bien, réécoutez-le cette semaine. Faites-y écho. Revivez cette semaine l'une ou l'autre partie du culte de ce matin. C'est cela aussi, nous attacher à l'enseignement de Dieu, de sa parole, de la Bible. C'est la première clé que ici cette sagesse nous donne. Et la seconde clé pour vivre notre relation avec Dieu de manière épanouie, la sagesse nous invite à placer notre confiance en Dieu, et ça fait écho à ce qu'on a entendu aussi dans la première partie du culte, à nous reposer sur Dieu. Chapitre 3, verset 5, qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Se confier en Dieu, s'attendre à Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire totalement, sans réserve. Et pour cela, il y a deux mises en garde qui nous sont données. Chapitre 3, verset 5, « Ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et puis, deux lignes plus bas, « Ne sois pas sage à tes propres yeux. » Parce que parfois, on peut avoir tendance à se confier en Dieu dans un domaine ou dans un autre de notre vie, mais le reste, on en fait notre affaire. On veut avoir le contrôle pour différentes raisons. Le doute, est-ce que Dieu est vraiment là dans ce que je traverse ? Parce que peut-être que s'il n'est pas là, il vaut mieux que je sois au contrôle. Est-ce que Dieu est intéressé par ce que je suis en train de vivre ? Il a peut-être des choses bien plus importantes à faire. Et le doute nous guette. Et il peut être tellement tentant de se comporter comme Abraham, qui, à cause de son grand âge, ne s'attendait plus à pouvoir avoir une descendance. Il s'est mis à douter de la promesse que Dieu lui avait faite de lui donner un fils. Et il a trouvé une solution à la place de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait promis. Ce n'est pas le plan que Dieu avait choisi. Une autre raison qui nous pousse à raisonner en nous appuyant sur nous-mêmes, c'est l'orgueil. Penser qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. C'est ce que veut dire aussi, ne sois pas sage à tes propres yeux, ne sois pas orgueilleux, sous-entendu. Parce que être sage à ses propres yeux, c'est penser que grâce à notre intelligence, à notre raisonnement, eh bien nous sommes en mesure de pouvoir nous passer de Dieu, de ses paroles qui sont contenues dans la Bible. Et c'est penser que nous nous suffisons finalement à nous-mêmes. Il y a une place, et j'insiste là-dessus, pour la réflexion, pour le fait d'utiliser notre intelligence, pour faire usage de cette intelligence. Dieu nous l'a donnée et ce n'est pas pour rien, mais jamais sans la confiance en Dieu. Alors la sagesse préconise, et elle préconise deux choses que j'affiche en rouge ici. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, pas juste quelques-unes ici ou là, mais dans chaque domaine de ta vie. La sagesse du livre des Proverbes nous invite à rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, en particulier quand nous sommes face à des choix importants dans la vie. Et il y en a, des choix de vie, des choix pour nos études, pour notre vie professionnelle, des choix dans nos relations. Et la seconde chose que la sagesse préconise, en dessous du verset, dans le verset 7, crains l'Éternel et écarte-toi du mal. La crainte de l'Éternel, qui est encore en écho au début du livre, chapitre 1, verset 7, qui est le commencement de la connaissance. S'écarter du mal dont il est question ici, c'est-à-dire s'écarter de tout ce qui contrarie, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et de tout cela, il en découlera, là encore, deux choses. Dans ce jeu de répétition, vous le voyez bien, là, le livre des Proverbes aime dire, redire les choses sous forme de répétition. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs ici, pour faire ressortir ces répétitions. Voici ce qui en découlera. C'est lui qui aplanira tes sentiers, et ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Ça ne veut pas dire non plus que la réponse sera immédiate. On prie et hop, hop, ça y est, Dieu ouvre les portes. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Cet aplanissement des sentiers, peut-être ça se traduit plutôt par une certaine paix intérieure, une direction qui s'esquisse progressivement, étape par étape. Alors, quel domaine de votre vie n'avez-vous peut-être pas encore confié à Dieu ? Dans le cœur à cœur avec Dieu, identifiez cela. Dites-le lui et accueillez Dieu en lui laissant toute la place. Faites-lui confiance pour votre vie. Je ne fais que l'évoquer ici, mais cette confiance en Dieu, elle aura des répercussions dans notre vie, dans les deux domaines qui sont mentionnés juste dans les quatre versets suivants. Déjà dans la gestion de nos biens, pour vivre en faisant confiance à Dieu et vivre le contentement, avec les versets 9 et 10. Et aussi la confiance en Dieu qui va générer en nous une disposition, une acceptation de la correction de Dieu à notre égard, avec les versets 11 et 12. Il y aurait bien des choses à dire sur ces textes, mais je ne fais que l'évoquer simplement. S'ensuit cette section qui chante les louanges de celui ou celle qui trouve la sagesse avec les versets 13 et 18 de ce chapitre 3. Ça démarre comme cela. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui devient raisonnable. Et ça se termine, ce poème ici, ça se termine de la manière suivante. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la retiennent sont heureux. Heureux, premier mot et dernier mot de ce poème. Oui, heureux celui, celle qui trouve la sagesse. Qui trouve la sagesse et qui la retient, qui la garde. Qui trouve la sagesse aussi pour en vivre. Avec cette affirmation subtile, mais ô combien importante, comme on l'a entendu là aussi dans la première partie de ce culte, que nous ne sommes pas seuls. Versets 19 et verset 20. C'est avec cette sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est avec intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et les nuages distillent la rosée. Pourquoi je dis que nous ne sommes pas seuls ? Parce que tout comme la sagesse est le moyen par lequel l'Éternel a fondé, a établi la terre, comme on le voit dans ces deux versets, la sagesse est aussi le moyen par lequel Dieu va soutenir, va établir fermement ceux et celles qui vivent de cette sagesse, comme il le déclinera dans les versets 21 jusqu'à la fin du chapitre 3. Donc, 15 versets. Nous ne sommes pas seuls. Il te gardera, comme on l'a chanté tout à l'heure. J'affiche une diapo récapitulative de tout ce que nous venons de voir. Écoutons la bonne voix. Déjà, écoutons. Parce qu'il y a cette alerte-là au danger des mauvaises fréquentations. Ne les écoutons pas, ces mauvaises fréquentations, mais écoutons la bonne voix, la voix de la sagesse qui est là et qui nous appelle et qui t'appelle ce matin. Écoute-la, écoutons-la pour être en sécurité auprès de Dieu. Dans ce jeu de répétition, nous sommes invités à écouter la voix de la sagesse. C'est redit encore au début du chapitre 2. Pour mieux vivre nos relations avec Dieu et avec notre prochain. Pour éviter les pièges des mauvaises influences et aussi de la femme séductrice, de la courtisane. Et cela pour être finalement en sécurité auprès de Dieu. Écoutons la bonne voix pour suivre la bonne voie dans une relation épanouie avec notre Dieu. Avec ces deux clés qui nous sont données, attachons-nous à l'enseignement de Dieu et plaçons notre confiance en Dieu. Oui, de cela, il en découle ce heureux qui est dit au début et à la fin de ce poème des versets 13 à 18. Heureux, heureux. Dieu est le soutien de ceux et celles qui trouvent la sagesse. Dieu est celui qui les affermit. Dieu est celui, comme Alain l'a dit tout à l'heure, qui va faire aller jusqu'au bout ce qu'il a commencé en nous. Alors la sagesse que nous sommes invités à vivre ici n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est un mode de vie qui est fondé sur l'attachement à Dieu, à ses paroles, et la confiance en Dieu. Et elle nous invite finalement à tourner notre regard vers le Nouveau Testament, vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par qui et pour qui tout a été créé. Colossiens 1, verset 16. Car par nous-mêmes, il est impossible de vivre parfaitement la sagesse que Dieu nous dit, nous donne dans la Bible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas vivre cette sagesse parfaitement. D'où cette invitation, comme on l'a vu, à compter sur l'Éternel, à ne pas se considérer comme sage à nos propres yeux. Parce que Jésus, lui, il a vécu une vie parfaitement droite, juste, sage. Jésus incarne la sagesse qui s'exprime dans le livre des Proverbes. Jésus est le Seigneur et le Sauveur qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver dans sa grâce de cette condamnation qui pesait sur nous. Et il a réalisé cela en portant nos péchés, en donnant sa vie à notre place par sa mort sur la croix. Et si nous nous attachons aux paroles de Jésus, si nous plaçons notre confiance en lui, deux choses finalement pour dire sensiblement la même chose, si nous plaçons notre confiance en Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous avons cette sécurité auprès de Dieu. Non pas que tout sera facile dans la vie présente, mais nous savons que nous avons cette espérance que lorsqu'il reviendra, nous passerons l'éternité avec lui. Cette éternité promise auprès de Dieu, c'est la plus grande source de bonheur qui soit. Et pour l'heure, pour la vie présente, notre relation avec Jésus nous fera petit à petit, avec des hauts, avec des bas, et toujours avec sa grâce, et aussi avec notre volonté, notre détermination. Tout cela nous fera grandir dans la connaissance de Jésus et dans cette sagesse que Jésus incarne parfaitement et qu'il veut nous faire vivre par son esprit. Que Dieu soit loué pour le don de son Fils Jésus-Christ. Amen.